Chaque soir sur France Culture, une discussion menée par un intellectuel. Cinq grandes voix des domaines de la santé, de la philosophie, de la culture, des spiritualités. Frédéric Worms, René Friedman, Lélie Anvar, Antoine Garapon, Régis Debray. Chaque jour, un invité de leur choix pour un échange en toute liberté. Les discussions du soir, de lundi à vendredi à 22h15. À écouter aussi sur franceculture.fr.
Et donc, il est 6h sur France Culture. Les premiers titres de la journée, c'est avec vous, Amélie Perrier. Bonjour.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Et l'actualité ce matin, évidemment, c'est l'émancipation d'Emmanuel Macron, le désormais ex-ministre de l'économie, annoncé hier son départ de Bercy, sans toutefois se lancer officiellement dans la campagne présidentielle. Celui qui fut son protégé à l'Élysée, son conseiller économique, devient un rival pour François Hollande, un de plus pour l'an prochain. Les attributions d'Emmanuel Macron reviennent à Michel Sapin, passation de pouvoir prévue ce matin à 9h. Et puis, on a appris également hier la démission d'une autre ministre, celle des Outre-mer, Georges Pollangevin, pour des raisons personnelles, précise le communiqué de l'Elysée. Elle est remplacée par la réunionnaise Erika Barreit. C'est aussi la rentrée des classes pour les professeurs ce matin. Un jour avant les élèves, 860 000 enseignants retrouvent leur établissement. Un certain nombre de nouveautés les attendent. Des programmes rénovés du CP à la 3e. Et au collège, cette année, ils vont devoir mettre en œuvre la fameuse réforme de la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Réforme toujours contestée. Elle introduit l'interdisciplinarité, l'enseignement de plusieurs matières au sein d'un même cours. La réforme avance aussi d'un an l'enseignement de la deuxième langue vivante, en cinquième donc. Elle supprime une partie des classes bilingues et réorganise l'enseignement du latin et du grec. Une belle promesse pour Alstom, le constructeur ferroviaire français décroche le marché du futur TGV de la SNCF. La compagnie vient de l'annoncer. Un partenariat d'innovation sera présenté la semaine prochaine pour élaborer le train à grande vitesse de demain. L'actualité à l'étranger, c'est ce matin la mort du porte-parole de Daesh. Le groupe djihadiste a confirmé donc le décès du Syrien Abu Mohamed à Al-Adnani, dans la province d'Alep, théâtre de violents combats. Al-Adnani, par ses messages de propagande, est considéré comme celui qui a encouragé les attaques de loups solitaires sur des civils en Occident, attaques terroristes en France notamment. Et toujours dans la région, les États-Unis affirment avoir obtenu une trêve entre ses deux alliés, la Turquie et les milices kurdes. Depuis une semaine, Ankara avait lancé une offensive à la frontière avec la Syrie, bombardant les positions de Daesh, mais également celles des combattants kurdes, considérés eux aussi comme des terroristes par le président Erdogan. Le pouvoir turc n'a pas encore confirmé ce cessez-le-feu. Et puis le Gabon attend toujours son prochain président. La commission électorale doit proclamer aujourd'hui le résultat de l'élection. Un combat entre le sortant Ali Bongo et son rival Jean Ping.
Merci Amélie Perrier. On vous retrouve à 6h30 pour un journal complet de la rédaction. C'est une heure où l'on a envie de tout se dire. Est-ce la fatigue d'une nuit éclair qui se répète, le fait que je vous sente malgré l'heure au rendez-vous? Toujours est-il que la parole que l'on croit au réveil un peu coincée au fond du corps se met soudain à prendre ses libertés et toute son ampleur. Il est 6h03 sur France Culture et les petits matins commencent. L'image de notre journée qui commence aujourd'hui serait celle d'une nuit blanche. Deux jeunes femmes restent côte à côte sur un terrain vague et regardent les étoiles en partageant une cigarette. Toutes deux s'arrêtent, épuisées par la quête d'elles ne savent même plus quoi. Dounia chuchote. Elle raconte à son amie Maïmouna ce rêve récurrent, celui d'une chute sans fin, dans une sorte de trou noir, sans personne, aucune main tendue pour la rattraper, l'empêcher de tomber. Dounia la dure montre pour la première fois, et peut-être l'obscurité de cette nuit l'y aide-t-elle, le visage de l'enfant qu'elle est, en fait, apeurée et seule. La jeune femme aux grands yeux noirs fatiguée se laisse alors aller à poser sa tête sur l'épaule de son amie qui lui dit que Dieu est là pour veiller sur ses enfants. C'est obligé, c'est sa responsabilité, dit-elle. C'est l'histoire d'enfants de Dieu non reconnus, comme le lui répond Dounia, et pourtant, elles sont divines. C'est le premier long métrage d'Ouda Benyamina, caméra d'or au Festival de Cannes et qui sort en salle aujourd'hui et dont les images pour le coup vous marqueront probablement plus d'une journée. Cette première nuit des matins sera placée sous le signe, cette première partie des matins sera placée sous le signe de la nuit, une manière d'appeler le jour à enfin se lever. À 6h26, François Angelier nous parlera de ces girls, des jeunes femmes un peu paumées qui se sont volontiers laissées happer par les ténèbres. Il s'agit là du roman d'Emma Klein publié chez Kay Voltaire. Mais avant cela, alors que l'heure du premier pas de danse de la journée approche, c'est encore de nuit qu'une étrange bande d'adolescents décide de semer le chaos dans Paris. Ils ne se connaissent pas mais se retrouvent tous dans une certaine idée du désespoir. désespoir. Il s'agit du dernier film de Bertrand Bonello, Nocturama. Le film devait d'abord s'appeler Paris est une fête, mais la concomitance de l'étrange fiction en train de s'écrire et de l'horrible réalité de l'automne dernier a fait changer ce nom. Du désespoir, de l'ennui et de l'avenir vide de sens et de tout le reste. Bertrand Bonello en fait sa matière de travail qu'il sublime et interroge, que ce soit dans la maison close de l'Apollonide ou dans le Paris bouleversé de Nocturama. Bertrand Bonello est jusqu'à 6h25 l'invité de ce mercredi dans le Paso Doble de Toufik Hakem.
Paso Doble.
Paso Doble.
Le grand entretien culture des petits matins. Mercredi, cinéma.
Bonjour Bertrand Bonello.
Bonjour.
Nocturama, votre dernier film qui sort aujourd'hui. Cette sortie, on n'est pas seulement dans la séquence La rentrée du cinéma, on est aussi dans la séquence La rentrée des polémiques. C'est un film qui va sans doute provoquer des polémiques. Alors pour commencer, je vais vous demander de le résumer vous-même, Bertrand Bonello.
Alors, si je résume le film, ça va être assez simple parce que le film est fait comme une sorte de geste, on va dire. Donc, on va assister on va voir une dizaine de jeunes gens entre 18 et 22 ans déambuler dans la ville avec un but, et on va s'apercevoir que ce but, c'est faire sauter en simultané quelques lieux symboliques de Paris. Et après, ces jeunes gens vont se réfugier toute une nuit dans un grand magasin.
Donc c'est un film sur le terrorisme moderne, actuel.
C'est délicat d'utiliser terrorisme moderne parce que tout d'un coup, c'est vrai que Daesh a phagocyté totalement en fait, cette notion-là. Donc j'ai plus envie de dire que c'est un film sur un geste d'idée de refus d'une jeunesse un petit peu assommée et désemparée.
Oui, mais la méthode que vont employer ces jeunes renvoie effectivement des attentats simultanés qui ciblent le ministère de l'Intérieur, qui ciblent des lieux donc symboliques, une grande multinationale du CAC 40, et puis surtout la statue de Jeanne d'Arc, avec Jeanne d'Arc qui brûle, c'est Paris qui brûle aussi.
Oui, et Paris, une ville qui n'a jamais été vraiment touchée, même pendant la guerre, c'est vraiment un geste fort. C'est pour ça que je préfère utiliser le mot d'insurrection à la limite que celui de terrorisme, parce que ça me semble quelque chose qui a traversé les âges. Et ce geste, en effet, il est violent, mais il n'est pas volontairement meurtrier, par exemple, ce qui fait aussi une différence avec le terrorisme qu'on vit aujourd'hui. Il s'attaque à des lieux et à des symboles forts, mais qui pour cette jeunesse-là peuvent représenter l'oppression, peuvent représenter l'étouffement. Voilà.
S'il fallait parler de ces jeunes qui vont se rencontrer, vous vous arrangez dans ce film pour qu'il n'y ait pas une seule cause politique à l'origine de leur envie d'en découdre, à l'origine de cette envie de commettre des attentats.
Mais simplement parce que le film démarre le jour J, en fait. Donc on imagine bien qu'avant que le film démarre, ils se sont rencontrés. Le film montre d'ailleurs un petit peu par des flashbacks comment ils se rencontrent. Évidemment qu'ils ont parlé. Ce sont des jeunes qui viennent d'univers assez différents. Donc ils n'ont peut-être pas les mêmes raisons, mais ils peuvent tout à fait avoir la même rage, en fait. Donc la cause politique, pour eux, elle existe. Simplement, pour moi, elle est hors champ dans le film, mais parce qu'il ne m'a pas semblé du tout nécessaire de l'expliquer, tellement elle me semble assez évidente.
Justement, elle n'est pas très évidente parce qu'il y a un peu de tout dans cette bande de jeunes. C'est-à-dire, on voit aussi bien que des jeunes gens plutôt bien éduqués, issus de familles bourgeoises, qui ont fait des grandes écoles, que des gens qui viennent de banlieue et qu'on pourrait considérer comme des jeunes Français de quartiers sensibles. Il y a les deux.
Oui, mais c'est ça qui m'intéressait, c'était pas de ne pas stigmatiser une chose plutôt qu'une autre et de montrer un sentiment de rage beaucoup plus diffus, beaucoup plus large, auquel personnellement je peux croire, oui. ce serait trop simple de pointer une seule chose, de la rationaliser, de l'expliquer et de la canaliser quelque part. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est en ce sens-là que je parlais de sentiments diffus. Et c'est comme ça que j'ai conçu un petit peu mon groupe. Mais c'était un postulat pour moi très très important au départ du film. Ce groupe hétérogène qu'on peut considérer comme étant une utopie de ma part, parce que c'est vrai que c'est une jeunesse qu'on a plutôt tendance à avoir envie de séparer aujourd'hui que rassembler. Mais voilà, c'est un espèce de postulat utopique dans le début du film qui me permet, pour moi, de vraiment d'affirmer ce propos de cette rage diffuse et beaucoup plus ample que de la cibler sur une seule chose, quoi.
Alors, ce qui est troublant, c'est que ça parle d'une actualité avec un autre point de vue. Très souvent, quand Paris ou d'autres villes occidentales sont confrontées à ce genre d'action terroriste, on voit beaucoup plus les officiels, on voit beaucoup plus les forces de l'ordre, et on ne voit pas les terroristes. Vous optez pour exactement le contraire, c'est-à-dire vous allez nous raconter, vous allez nous faire vivre cette journée avec ces jeunes qui vont commettre des actes de terroristes, alors que tout le reste de la société, les forces de l'ordre, pour commencer, on ne les voit jamais. Ils sont cachés, ils ont leur tenue, on ne les voit même pas.
Alors ça, c'était une des autres choses qui était primordiale pour moi, c'était prendre ce groupe de jeunes ou de gamins, enfin, et surtout ne pas les lâcher, ne pas faire de montage parallèle, etc. Rester avec eux, avec ceux qui savent, ceux qui font, ceux qui ne savent pas. À un moment, ils vont s'enfermer dans un grand magasin. Ils ont jeté leur téléphone portable, on n'entend rien parce que c'est insonorisé. Donc voilà, il se passe quelque chose hors champ qu'ils ne connaissent pas, et nous on est avec eux, et c'était vraiment important pour moi de jamais, jamais, jamais les lâcher. Quoi. Oui.
Mais on pourrait dire que vous avez de la sympathie, beaucoup d'empathie pour eux.
Bah, en tout cas, sans vouloir dire que je les excuse, en tout cas je les comprends. Et c'est vrai que le temps passé avec des gens... Et puis il y a quelque chose aussi, c'est leur âge par exemple. Je ne me rendais pas compte quand j'écrivais le scénario que je marquais David 20 ans. Et ben, quand on a quelqu'un de 20 ans, en effet, c'est quasiment un enfant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé au montage et qui donne la sympathie, le mot est grand, mais enfin en tout cas une empathie, oui.
Tu crois qu'on va se faire choper?
C'est impossible.
Alors, Bertrand Bonello, justement, dans Nocturama, vous parlez d'empathie pour ces personnages, mais c'est quand même ancré dans le réel, hein. C'est dans la France d'aujourd'hui, c'est dans la France où le Premier ministre s'appelle Manuel Valls, et c'est très étrange et très troublant de voir votre film, parce qu'on a l'impression que ça répond un peu à cette fameuse déclaration de Manuel Valls, quand il disait « commencer à essayer d'expliquer les causes du terrorisme, c'est déjà excuser les terroristes ». Vous faites exactement le contraire. Hein.
Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que je tenais à une forme de mélange entre de l'ultra-réalisme et de l'abstraction aussi. C'est que le film devient quelque part... Il y a une forme de poésie qui se met en place et d'abstraction du fait peut-être du manque... Enfin, de l'absence de discours. Et quand je parle d'ultra-terrorisme, ultra-réalisme, c'était vraiment de l'ancrer, en effet, dans un Paris très contemporain avec des références, en effet, au Premier ministre, des banques qu'on retrouve, etc. Et le film, le projet du film... c'était de trouver le curseur le plus parfait entre ce réalisme et cette abstraction. Oui.
Ça va être très difficile de ne pas faire une lecture politique de Nocturama.
Certainement. Après, ce n'est pas à moi de la faire. Moi, je suis là pour... j'ai un ressenti très fort, très puissant, il y a quelques années, qui donne lieu à ce scénario. Je fais le film en le tirant le plus possible vers le cinéma, vers la fiction. Après, que les gens s'en emparent pour en parler et pour faire leur lecture politique, très bien, mais je ne pense pas que ce soit à moi de le faire. Si on commence un projet avec une lecture politique, le film va forcément devenir programmatique, et c'est ce que je ne voulais pas. Je ne peux pas utiliser le meilleur mot que ressenti, j'ai un ressenti très fort que j'essaye de immédiatement transformer en fiction avec des personnages et une mise en scène. Mais je ne veux pas, moi, par-dessus, arriver avec un discours, le film, pour moi, se suffit à lui-même.
Alors c'est quoi ce ressenti? D'où est partie cette envie de faire ce film, Bertrand Bonello?
Bah, le ressenti, c'est vraiment que où qu'on aille, qu'on lise le journal, qu'on marche dans la rue, c'est un sentiment de cocotte minute, quelque chose qui boue et qui va exploser ou qui devrait exploser et qu'on retient. Et voilà, moi j'ai mis en scène l'explosion en tout cas de quelques personnages.
Oui, mais la France et Paris très particulièrement ont été touchés l'année dernière par deux actes de cette ampleur-là, de terrorisme, c'est-à-dire les attentats contre Charlie et puis les attentats du vendredi 13 novembre. Comment vous avez réagi à ces deux attentats alors que vous étiez en train de préparer le film ?
Évidemment, bon, d'abord on réagit en tant que citoyen, hein, c'est-à-dire on est très très... sonné, blessé, meurtri. Après, par rapport au film, je vois très bien à quel endroit se situe mon film et à quel endroit se situe cette barbarie. Et moi, je pense que mon travail, c'est d'affirmer d'autant plus à ce moment-là mon film, la fiction, et que surtout l'actualité ne pénètre pas le film en réaction immédiate. Je pense que c'était important pour moi de ne pas changer, de tenir ma ligne et de rester à mon endroit, qui est celui d'un réalisateur.
Mais le titre du film a changé. Avant, ça devait s'appeler « Paris est une fête ».
Oui, ça, en revanche, c'est vrai que quand le livre d'Hemingway est devenu une sorte de symbole post-13 novembre, ça devenait très très délicat de garder le même titre. Mais parce que je ne voulais pas qu'on imagine que je m'étais approprié ce titre. Et puis voilà, c'était pour marquer. Il fallait changer de titre. Oui. Et d'ailleurs, le nouveau titre, Nocturama, renvoie encore plus à une espèce de notion un peu rêvée ou cauchemardesque. Et ça éloigne un petit peu d'une sorte de réalisme.
Après les attentats du 13 novembre, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a même eu une polémique entre deux grands chercheurs, Olivier Roy et Gilles Kepel. Vous avez sans doute suivi cette polémique. Pour aller très vite, Olivier Roy disait que c'était l'islamisation de la radicalité, du nihilisme. Et Gilles Kepel était tout à fait contre, en disant que non, la base de ce terrorisme nouveau est à rechercher du côté du salafisme, donc de la religion. Comment vous situez par rapport à ces deux points de vue ?
Oui, alors pour moi, mon film, je ne le situe pas déjà là, puisque ça n'a rien à voir avec l'État islamique ou Daesh. Je ne suis pas un spécialiste ni un politologue. Si vous me demandez mon avis sur les deux analyses, en effet, je me sentais plus en accord avec Olivier Roy, mais sans avoir non plus les connaissances de Gilles Kepel.
Mais c'est-à-dire, comment vous voyez ce nihilisme ? Comment vous l'avez ressenti d'ailleurs ? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce film, Bertrand Bonello ?
Ben, pousser, c'est vraiment comme je vous disais, c'était ce ressenti que j'avais et cette envie d'en faire, de le transformer immédiatement en fiction, voire en film d'action quelque part, pour justement le dégager du discours et être uniquement dans le sentiment. Après, moi, il y a des livres qui m'ont accompagné pendant l'écriture. Par exemple, pour sortir un petit peu de ce siècle, le livre de la Boétie, Discours de servitude volontaire, qui est pour moi un des plus grands livres politiques français, écrit au XVIe par un gamin de 20 ans, et qui est un livre aussi, une sorte de je vais pas dire d'appel à l'insurrection, mais quasiment. Voilà, je me suis plus mis de ce côté-là que du côté d'une réflexion nourrie par Olivier Roy ou Kepel, par exemple.
Les premières réactions au film ont été plutôt rudes pour vous. Je suppose que le fait que le film n'ait pas été retenu à Cannes, ni dans la sélection officielle, ni par la quinzaine des réalisateurs, a dû vous troubler. Est-ce que vous vous êtes posé des questions ? Comment vous avez réagi ?
Bon, évidemment, il y a une forme de déception, mais qui disparaît assez vite. Après, on sait que le film va avoir une vie quand même. Je me dis qu'en effet, c'est peut-être pas plus mal que le film n'ait pas été à Cannes, parce que Cannes est un lieu très très hystérique, où il faut avoir une analyse extrêmement rapide, tout est très exagéré, et que je pense que c'est un film sur lequel les journalistes ont peut-être besoin de prendre ne serait-ce que 24 heures ou 48 heures pour écrire, pour réfléchir, et que ce temps-là, on l'a pas à Cannes. Le refus, après, les raisons leur appartiennent. Hein. Mais oui, ben, j'accompagne le film, mais comme j'accompagne les autres, je sens que sur celui-ci, il faut peut-être accorder un petit peu plus de temps. Ouais.
Pour parler de la réalisation de ce film, comment vous avez choisi les lieux ? Pourquoi ce magasin? Pourquoi votre cinéma revient toujours vers un huis clos? L'enfermement, pour vous, ça représente quelque chose de très important, Bertrand Bonello?
Ben, en tout cas, je trouve que cinématographiquement, c'est assez magique, parce qu'on recrée un monde à l'intérieur du monde, et ce monde n'appartient finalement qu'au film, pendant le temps du film. Dans le cas d'un grand magasin, c'est un lieu qui m'a toujours fasciné, c'est la recréation du monde parfait tel qu'on voudrait nous le vendre. En effet, il y a absolument tout. Vous pouvez manger, dormir, regarder la télévision, vous habiller. C'est donc une idée du monde parfait que nous propose le monde capitaliste d'aujourd'hui. Et ce monde-là s'inscrit dans un monde qui serait imparfait. Voilà, donc j'aimais bien ce lieu pour ça. Et puis c'est un gigantesque terrain de jeu pour un cinéaste.
Bertrand Bonello, parlons maintenant de la musique de Nocturama. Comme d'habitude, vous avez composé la musique du film et vous avez aussi choisi les morceaux.
Oui, c'est quelque chose que je fais très tôt pendant l'écriture du scénario. Dans le script, tout est noté, les morceaux qui sont diffusés sont notés. Et c'est pendant que j'écris, je commence à trouver les textures et des bouts de composition. Je ne vais pas jusqu'au bout, mais enfin, j'avance quand même très très fortement sur la musique originale. Ce qui fait que quand j'arrive sur le tournage, j'ai à peu près toute la bande-son que je peux faire écouter aux acteurs, aux techniciens. Et puis quand j'arrive en montage aussi, en effet, j'ai tout. C'est-à-dire que ça fait partie pour moi du matériel de construction et de narration. C'est pas juste quelque chose qui va illustrer les images pendant le montage.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case.
Voilà, par exemple, cette musique-là, qui joue un rôle très important dans le film, parce qu'elle va être reprise par un des protagonistes.
Alors, My Way, c'est sûr que bon, j'avais envie à un moment j'avais cette image d'une descente d'escalier comme ça, comme une espèce de fête finale, puisque je me suis dit, le grand magasin, c'est le lieu où ils vont tous s'autoriser. Ça me semblait un peu évident de prendre une version punk, il y en a déjà eu, hein, c'est Vicious, etc. Et j'aimais bien ce côté Las Vegas et la version de Shirley Bassey, encore plus que celle de Sinatra, de par l'arrangement, me provoquait cette sensation.
I planned each target course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew.
Nocturama sort aujourd'hui au cinéma, mais vous avez réalisé un autre film plus court de 25 minutes, Sarah Winchester, Opéra Fantôme. Et là, vous racontez donc l'histoire de Sarah Winchester, donc la veuve de celui qui a inventé la carabine, qui a fait tant de morts depuis la guerre de sécession. Pourquoi cette femme ?
En fait, c'est un personnage qui me fascine depuis 10 ou 15 ans, sur lequel j'avais pensé à un moment faire une fiction classique. Et quand l'opéra m'a proposé de cette carte blanche, j'ai eu envie de faire une sorte d'opéra fantôme, et je me suis dit que c'était un personnage parfait pour un opéra fantôme et pour le utiliser par exemple les chœurs pour donner la voix des morts, puisque cette femme, après avoir hérité de toute la fortune Winchester, s'est dit qu'elle devait accueillir tous les morts pour avoir la paix. Donc elle va construire pendant toute sa vie une maison pour accueillir tous les fantômes tués par des Winchester, et elle construira jusqu'à sa mort à l'âge de 82 ans.
C'est un film qu'on va pouvoir voir à partir du mois prochain en passant par la plateforme de l'Opéra, c'est ça ?
Voilà, la plateforme de la troisième scène qui accueille pas mal de projets, pas mal de cartes blanches.
Et c'est une très bonne surprise parce que pour raconter l'histoire de Sarah Winchester, vous avez utilisé à peu près tous les moyens de la fiction. L'écrit, qu'on voit d'ailleurs, le récit donc, la musique, la danse et le cinéma, c'est vous le cinéma. Le film dure 25 minutes et c'est la répétition donc d'un spectacle qui n'aura jamais lieu, d'où Opéra Fantôme autour de Sarah Winchester, entre le metteur en scène et la danseuse, entre Reda Kateb et Juliette Vial. Et c'est incroyable parce que le metteur en scène, celui qui dirige cet opéra, c'est celui aussi qui a le pouvoir de mettre la musique.
Oui, en fait, c'est-à-dire, je me suis dit, l'opéra, c'est un mélange de plein d'arts. Donc d'un côté, je vais mettre le musicien, metteur en scène ou compositeur ou chef d'orchestre. De l'autre côté, la danseuse qui est en fait... Juliette Vial, c'est la petite fille. La danseuse s'appelle Marie-Agnès Gillot. Et puis les chœurs, les 90 choristes, dans un autre lieu, leur pièce de répétition. Et c'est le montage qui va rassembler tout ça et fabriquer une bribe d'opéra.
Merci Bertrand Bonello.
Merci à vous.
Bertrand Bonello sera par ailleurs l'invité de la Grande Table tout à l'heure à midi chez Olivia Gisbert. Demain, je serai avec François Valéjo. Ce sera un polar avec beaucoup de plats bien mijotés.
Entretien réalisé par Thomas Duter que vous pouvez réécouter, podcaster sur notre site franceculture.fr à la page des Petits Matins ou directement du Passo Doblé. Et à presque 6h26 sur France Culture, c'est l'heure des émois de François Angelier.
Oui.
François Angelier qui, d'ailleurs, chers auditeurs, je vous le dis, m'a fait part de sa propre version de My Way en studio,
oui,
rien que pour moi.
Il vaut mieux ne pas entendre.
Et moi, j'ai adoré l'entendre et c'est pour ces raisons que j'adore me lever le matin pour vous retrouver, François.
C'est moi de même, Émilie.
Et aujourd'hui, donc, François, vous êtes venu accompagné de vos girls, très fréquentables.
Si, très fréquentables, mais qui le deviennent le temps d'un été, beaucoup moins. Alors, vous avez noté, Émilie, que cette rentrée est mis sous le signe de la monstruosité. Nous sommes pris dans la lumière noire de certains monstres. Alors, il y a le livre, effectivement, sur Monique Fourniret, il y a le livre sur Tony Meillon de Jablonka, Laetitia, et puis il y a ces deux livres sur l'affaire Manson qui revient nous hanter presque 40 ans plus tard. Le livre de Simon Liberati, donc de California Girls, et puis toujours des Girls, d'Emma Klein chez Kay Voltaire, qui est un roman, à la différence du travail de Liberati. Alors, cette affaire Manson, qui est véritablement une affaire... clé dans l'histoire de la justice américaine avec l'affaire du Dahlia Noir ou l'enlèvement du bébé Lindbergh. Cette affaire Manson, il y a trois manières de l'attaquer. On peut l'attaquer quand on en a été l'acteur et le témoin. C'est le livre Helter Skelter de Bugliosi, le procureur. On peut faire comme Simon Liberati, l'apprendre seconde par seconde, empathiquement, se mettre véritablement, descendre dans la fosse et se mettre dans le mental psychotique et assassin de la famille Manson. Et puis on peut faire, comme Emma Klein, une transposition romanesque et prendre les choses différemment, puisque elle met en scène en effet Evie Boyd, qui a 14 ans à l'époque, que l'on voit apparaître là aujourd'hui, vieille dame, confrontée à des adolescents, donc contrainte un petit peu d'essayer de repenser sa vie et de repenser le présent, et puis avec des flashbacks permanents sur cette époque, puisqu'en effet, à 14 ans, c'est la fille d'une ancienne petite starlette d'Hollywood, une famille pas recomposée mais décomposée, qui s'ennuie, un peu d'argent mais pas trop, elle s'embête dans la vie, et puis un jour, brusquement, assise au bord de la route, elle voit... Après avoir remarqué une jeune fille un peu magnétique dans un square, elle voit arriver un car noir qui prend là vraiment une figure fabuleuse et mythique. Et c'est le car qui a mis en place Manson, qui là prend un autre nom, russe, pour justement promener sa famille, qui est une véritable, un peu un enfer roulant, un enfer mobile. Et elle monte dans le car, c'est-à-dire qu'elle intègre la famille Manson, mais d'une manière un petit peu indirecte, puisqu'elle continue à fréquenter sa famille. Elle ne rompt pas avec son milieu, mais elle s'immerge dans le milieu de Manson. Et donc, elle connaît ce contre-champ absolu de l'Amérique traditionnelle qu'est la famille Manson, puisque c'est une famille qui vit dans un ranch. Donc, on ne peut pas faire petite maison dans la prairie. C'est le patrimoine américain. Et cette famille-là, au contraire, eh bien, elle dénature toute cette idéologie. Et puis, donc, on voit bien Evie Boyd, qui ne participera pas au meurtre, mais qui aurait pu être une criminelle, fréquenter la famille, voir un petit peu comment affronter la saleté, l'idéologie mansonienne, et à la fin, en être éjectée. Peut-être pour son bien, effectivement. Donc c'est sûrement le roman étranger de la rentrée qu'il faut avoir lu, et c'est surtout une très belle manière de revenir et d'interroger. C'est un premier roman.
C'est un premier roman, oui.
Voilà, d'interroger cette histoire de la famille Manson.
D'une très jeune auteure de 27 ans, d'ailleurs.
Absolument, 27 ans, c'est un premier roman sidérant, et c'est la grande tradition de toutes les conteuses noires américaines, de Flannery O'Connor jusqu'à Joyce Carol Oates. Bravo, mesdames.
Et je précise à nos auditeurs anglophones qu'un très beau portrait d'Emma Klein est disponible en ligne sur le site du New Yorker pour en apprendre plus sur cette auteure.
Et elle vient à Paris fin septembre.
6h29 sur France Culture. Bon réveil si vous nous rejoignez. Les petits matins continuent. À 6h40, on retrouvera Jacques Munier pour son journal des idées. Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie.
De quoi sera-t-il question?
C'est la rentrée, vous ne l'ignorez pas. Donc on va prendre le chemin de l'école aujourd'hui avec les profs et demain avec les élèves.
À 6h45, Thierry Garcin pour les enjeux internationaux. Vous nous emmenez au Royaume-Uni.
Voilà, 2 mois après le référendum sur le Brexit, on va voir l'état des partis, des principaux partis politiques avec notre invité Agnès Alexandre Collier.
Et à 6h58, nous retrouverons Guillaume Erner qui recevra dans les matins Mounir Majoubi, président du Conseil national du numérique.
Témoigner, décrypter, analyser. Sur France Culture, un même sujet approfondi du lundi au jeudi, la série documentaire. Le mot est dans toutes les bouches depuis les attentats de novembre 2014. Cette semaine, de la radicalisation au djihadisme. Paroles intimes, enjeux sociétaux, politiques, traitements médiatiques, fiasco, tentatives de déradicalisation. La série documentaire en 4 volets, de la radicalisation au djihadisme, cette semaine à 17h. À écouter aussi sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h30. Le journal présenté par Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Pas vraiment une surprise, mais un nouveau rebondissement dans la campagne présidentielle. Emmanuel Macron a démissionné hier après-midi du ministère de l'économie après des mois de rumeurs de départ, la création de son propre mouvement politique En Marche. Il quitte donc le gouvernement et sort du giron de François Hollande. Il n'a pas annoncé sa candidature à la présidentielle, mais affirme vouloir construire une offre politique nouvelle. En tout état de cause, son départ, Stéphane Robert, était devenu inéluctable.
Ses prises de position, ses initiatives pour marquer sa différence avaient montré au fil des semaines sa volonté de plus en plus affirmée de prendre son envol. Il y avait d'abord eu en avril la création de son mouvement politique qui reprenait dans une ambition un peu mégalomane les initiales de son nom et de son prénom, En Marche, comme Emmanuel Macron. Ensuite, au mois de mai, il avait mis en cause une caste politique à laquelle il affirmait ne pas appartenir, ce qui lui avait valu un sévère recadrage de la part du Premier ministre Manuel Valls avec qui la rivalité devenait de plus en plus criante. Le 12 juillet dernier, 2 jours avant la traditionnelle interview présidentielle du 14 juillet, il avait organisé son premier meeting devant 2000 personnes à la Mutualité. Et puis plus récemment, au mois d'août, dans une ultime provocation envers Manuel Valls, il est allé déposer une gerbe sur la tombe de Georges Clemenceau et il a déclaré ne pas être socialiste lors d'une visite au Puy du Fou en Vendée à l'invitation de Philippe de Villiers. Emmanuel Macron a donc officialisé sa volonté, comme il le dit lui-même, de prendre sa liberté. Ce ne sera certainement pas pour être candidat à la primaire à gauche prévue au mois de janvier, mais plutôt dans une perspective d'apparaître comme un recours au cas où François Hollande ne serait pas en mesure de se représenter l'année prochaine. Et puis si ça n'est pas pour 2017, cette démission d'un gouvernement de gauche dans une attitude transpartisane peut être reconvertie par Emmanuel Macron comme une manière de prendre date pour l'avenir.
C'est donc le petit événement de cette rentrée. Il n'a pas manqué de susciter des réactions, à droite comme à gauche. Nicolas Sarkozy s'est demandé publiquement, je cite, ce qui justifiait cette pagaille supplémentaire. Au Front National aussi, on est monté au créneau pour dénoncer un homme à la politique déjà périmée. C'est Nicolas Bell, secrétaire général du parti, qui réagit.
Son bilan, c'est pas en marche, c'est plutôt en panne. 100 milliards d'euros de dette publique supplémentaire, c'est 350 000 chômeurs supplémentaires, c'est 80 000 emplois industriels qui ont été supprimés, c'est une loi Macron qui s'est révélée parfaitement inefficace et qui avait été imposée de façon fort peu démocratique en 49-3. Voilà, tout ça, c'est un bilan assez médiocre, pour pas dire pitoyable, d'Emmanuel Macron. Il est finalement non pas ni de droite ni de gauche, il est et de droite et de gauche. Il a finalement tous les défauts cumulés de la droite et de la gauche. Il est à la fois pour un État omnipotent, incapable, confiscateur, notamment sur le plan de la fiscalité, et en même temps, il est mondialiste et ultralibéral. Je crois que c'est l'ensemble de ce schéma de société qui est finalement commun à la droite et à la gauche, que les Français aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à rejeter. Donc il incarne pas la modernité, il incarne au contraire le passé, il incarne une idéologie qui est en échec et en faillite. Et je crois que au-delà des effets d'annonce, c'est une candidature qui sans doute n'ira pas à son terme.
Voilà le secrétaire général du Front National, Nicolas Bay, au micro de Christine Moncla. À Bercy, c'est Michel Sapin, le ministre des Finances, qui reprend les attributions d'Emmanuel Macron à l'économie. La passation de pouvoir a lieu dès ce matin à 9h. Et l'on a appris également hier une autre démission du gouvernement, celle de la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Angevin, pour raison personnelle, précise le communiqué de l'Élysée. Elle est remplacée par la réunionnaise Erika Barreit. La démission d'Emmanuel Macron est tombée en pleine ouverture de l'université d'été du MEDEF et n'a pas manqué d'alimenter les discussions entre patrons. Une édition marquée de toute façon par l'échéance présidentielle. Le dirigeant du MEDEF, Pierre Gattaz, a l'intention de peser sur les programmes des candidats. Il promet 2 millions d'emplois si la France baisse les cotisations sociales au niveau de celles de l'Allemagne. Une proposition à faire hurler les syndicats. Écoutez Philippe Martinez de la CGT.
C'est il y a 2 ans, il voulait en créer 1 million. Ça lui a rapporté 40 milliards, sans jamais évidemment créer ce million. Monsieur Gattaz a compris que, en multipliant le nombre d'emplois promis, il pouvait multiplier la somme gagnée, c'est-à-dire 80 milliards. Pour l'instant, on attend toujours le million d'emplois créés, et on ne l'a pas. Monsieur Gattaz considère que payer ses salariés, c'est un coût. Il veut donner l'illusion qu'en ne payant plus de cotisations sociales, on allait gagner plus. Il oublie de dire comment on va financer les hôpitaux, sa santé. Comment on va financer ceux qui sont au chômage et qui ont mérite des indemnités? Et puis comment on va financer la retraite? Et puis ceux qui gagnent le plus sur les exonérations de cotisations, ce sont les patrons, parce que ce sont les actionnaires qui s'en mettent plein les poches. La France est le 3e pays au monde de dividendes versés aux actionnaires. Les profits dans les grandes entreprises augmentent. Et pendant ce temps-là, il y a des PME, des TPE qui meurent, et puis leurs salariés avec. Et puis il y a des restructurations dans les grands groupes.
Philippe Martinez, le patron de la CGT, il répondait à Annabelle Grelier. Et l'intersyndicale contre la loi travail, avec la CGT en tête, donc se réunit ce matin pour définir la suite de la mobilisation contre le texte de Myriam El Khomri. Une journée d'action est déjà prévue le 15 septembre.
Il est 6h35 sur France Culture, la suite du journal d'Amélie Perrier et l'annonce d'une trêve à la frontière entre la Turquie et la Syrie.
C'est Washington qui l'affirme. Les États-Unis ont obtenu de leurs 2 alliés, la Turquie donc et les milices kurdes, un arrêt des combats dans le nord syrien. Ankara a lancé une offensive il y a une semaine dans la région, bombardant les positions des djihadistes de Daesh et les forces kurdes, également considérées comme terroristes par le président Erdogan. Pour l'instant, la Turquie ne confirme pas cette trêve. Daesh, de son côté, vient de perdre l'une de ses figures emblématiques. Le groupe islamiste annonce la mort de son porte-parole, le Syrien Abu Mohamed al-Adnani, dans la province d'Alep, théâtre de combats meurtriers. Al-Adnani est considéré comme celui qui a poussé par ses communiqués de nombreux loups solitaires à passer à l'action en Occident, notamment en France. L'attente si longue au Gabon, la commission électorale tarde à rendre public les résultats de la présidentielle. Le pays est suspendu au duel entre le sortant Ali Bongo et son rival Jean Ping. Ce dernier avait annoncé sa victoire dès le week-end dernier. L'Ouzbékistan sans président, le dirigeant du pays, Islam Karimov, est en réanimation après une hémorragie cérébrale. Des journaux de la région affirment déjà qu'il est décédé. Les autorités ne donnent aucune information et cela alimente encore les rumeurs les plus alarmistes. Islam Karimov dirige l'Ouzbékistan d'une main de fer depuis la chute de l'URSS en 1991. Et à Moscou, aujourd'hui, on s'inquiète de sa succession, Marc Crépin.
Si les médias russes échafaudent de nombreuses hypothèses sur la succession d'Islam Karimov, personne au Kremlin ne se hasarde un commentaire. En attendant d'en savoir davantage, la diplomatie russe reste très préoccupée par ce qui se passe à Tachkent. Non pas parce que Karimov était un allié sur le plan économique et politique, lui, l'ancien dirigeant communiste pur et dur, travaillait volontiers avec la Russie parce qu'il y trouvait son avantage. En revanche, l'inquiétude des officiels russes s'explique surtout par les interrogations sur sa succession. On espère ici que l'Ouzbékistan restera un rempart contre les actions de déstabilisation venues d'Afghanistan. D'ailleurs, les Américains et plusieurs armées européennes ont aussi profité des facilités d'escale et de ravitaillement offertes par les Ouzbeks pour des opérations contre les talibans. De quoi fermer les yeux sur les excès du pouvoir autoritaire là-bas. 90% des 32 millions d'Ouzbeks sont musulmans et la Russie reste très attentive à ce qui pourrait se passer dans le pays, d'autant que les services russes affirment que plusieurs centaines d'Ouzbeks ont rejoint les rangs de Daesh.
Marc Crépin, notre correspondant à Moscou. Le temps de ce mercredi, l'été est de retour. Une belle journée ensoleillée quasiment partout. Le thermomètre remonte. Les minimales vont de 11 à 17 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 24 degrés à Dunkerque, 25 à Quimper, 28 à Paris, 28 aussi à Nancy, 30 à Chambéry et 32 degrés pour Avignon, Émilie Chaudet.
Et on vous retrouve à 8h à Mélisande. Amélie Perrier, mais à 7h avant vous, il y aura Catherine Dutu pour un prochain journal.
Pour l'heure, il est 6h38 et c'est à vous donc, Émilie Chaudet, pour la revue des titres de la presse française.
6h38 en effet sur France Culture, et avant de retrouver Jacques Munier dans quelques minutes pour le journal des idées, ces titres de la presse s'inscrivent dans la continuité de votre journal, Amélie Perrier. Les titres de la presse ce matin n'ont qu'un nom et qu'un seul visage en une, celui d'Emmanuel Macron. Après sa démission du gouvernement hier après-midi, plusieurs unes utilisent la même métaphore. Le Figaro et l'Humanité parlent d'un ministre de l'économie qui quitte le navire Hollande. Le Figaro qui file la figure de style. Emmanuel Macron torpille Hollande. M, les maudits, écrit l'éditorialiste du journal Yves Tréhard. M, comme Macron et Montebourg. M, les menaces. L'un s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. L'autre est attendu sur ce terrain. Ni l'un ni l'autre ne devrait participer à la primaire de janvier et risque donc de se retrouver face au président sortant au printemps. Le pire des scénarios, analyse le Figaro. Même point de vue dans le Parisien qui titre « Pourquoi il claque la porte ?» Dans l'opinion, le Big Bang Macron pourrait au contraire sauver Hollande, ironise Michel Chiffresse. Le départ de Macron lui donne de quoi nourrir les 78 entretiens des journalistes qu'il a programmés pour les 15 jours prochains. L'histoire d'une démission annoncée, comme le titre Le Canard, enchaîné en citant Gainsbourg. « Je suis venu te dire que je m'en vais. » La candidature probable d'Emmanuel Macron à la présidentielle donne, je cite, un coup de vieux à Sarko, Fillon, Juppé et consorts qui ont déjà beaucoup servi. Une analyse que prolonge Libération qui titre Macron l'auto-entrepreneur. Pour le journaliste Lilian Alemagna, le fondateur du mouvement En Marche peut prétendre mieux que Valls au leadership du camp des réformistes. L'unité aura duré moins de 24 heures depuis le meeting de rentrée de la majorité à Colomiers, note Libération qui cite un député PS. Macron, ils lui ont volé son cartable, sous-entendant que le Premier ministre tentait de le brider, de le confiner dans ses fonctions, notamment dernièrement en démembrant la loi sur les nouvelles opportunités économiques sur laquelle l'ex-ministre planchait. Une histoire de lassitude, mais aussi de liberté reprise, comme le titre La Croix, des titres qui viennent nourrir le récit d'un feuilleton gouvernemental à la dérive. Et en termes de récit de vol de cartable, Jacques Munier en a peut-être dans ses souvenirs d'écolier. En tout cas, à 6h40, votre journal des idées, Jacques, est consacré à la rentrée. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Émilie.
C'est la rentrée demain pour les élèves et dès aujourd'hui pour les profs, l'occasion de parler de l'école.
Oui, l'hebdomadaire Le 1 ouvre ses pages à ces profs qui font bouger l'école. Car si l'on en croit Nathalie Mons, qui préside le Conseil national de l'évaluation du système scolaire, nous avons 20 ans de retard sur les autres pays de l'OCDE. L'école d'aujourd'hui ressemble beaucoup dans sa pédagogie à celle du 19e siècle. Elle continue de fonctionner avec un enseignant faisant cours devant une classe. Mais d'autres formes existent ailleurs dans le monde, comme celle de la pédagogie inversée. Les élèves travaillent en amont, les contenus des leçons et les cours sont plus interactifs. La sociologue porte un regard critique sur l'une des dispositions de la réforme du collège qu'elle qualifie de stratégie du détour. Au lieu de prévenir et d'accompagner la difficulté scolaire au sein de la classe en ayant recours à des pédagogies différenciées, par exemple des ateliers ou du tutorat entre élèves, comme c'est le cas au Japon, on continue de traiter le problème à la marge de l'emploi du temps des élèves, avec un nombre d'heures dédiées à un enseignement plus individualisé très faible, alors qu'il faudrait développer des pédagogies efficaces au cœur de chaque heure de classe. En finir avec les notes pour souligner les différents degrés d'acquisition, plutôt que de pointer soit les acquis, soit les lacunes, apprendre debout pour améliorer la concentration, la mémorisation et la participation, penser le monde en images pour devenir des regards conscients, selon l'expression de Raymond Depardon, fondateur d'une plateforme pédagogique, la Fabrique du Regard. Toutes ces expérimentations menées dans ou autour de l'école contribuent à redonner du sens à sa mission.
Et de Fabrique du Regard, il en est aussi question dans la revue L'École des Parents, qui consacre un dossier sur l'éducation à l'image et au pouvoir de l'image.
Oui, dans un environnement saturé d'images, les enseignants sont en première ligne pour aider les élèves à exercer leur esprit critique. Dans l'enquête menée par Émilie Gilmer, le coordonnateur du CLEMI, le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, Alain Pinol souligne que le rôle de l'école est essentiel pour rappeler que toute image est une construction et pour transmettre des réflexes comme la vérification de la source ou du contexte de production. Confronter les élèves à l'écriture audiovisuelle les éveille notamment à la notion d'angle, quel point de vue choisir pour livrer une information. l'information. L'exercice vaut également pour apprendre à décrypter une œuvre d'art. Et comme l'affirme Frédéric Florin, un prof d'anglais qui a créé une web TV dans son établissement, une des meilleures manières d'éduquer le regard des élèves consiste à leur faire produire des images de manière à les transformer en consommateurs d'images éclairés.
Et en cette rentrée, le numéro spécial du mensuel Sciences Humaines pose cette question. Qu'est-ce qu'une bonne école ?
Philippe Mérieux rappelle l'étymologie grecque et latine du mot école, scolé ou scola, signifiant loisir. L'école est un lieu préservé où l'on prend du temps pour réfléchir, méditer et apprendre, un espace de décélération dans une société d'immédiateté. Pour François Dubé, une bonne école doit apprendre aux élèves des savoirs cognitivement robustes. La façon dont l'intelligence, la mémoire et le raisonnement sont mobilisés doit laisser des traces durables. Et le géographe Michel Lussault se plaît à imaginer une architecture modulable des bâtiments de manière à créer des îlots, une disposition des salles de classe en pétales pour contrer l'image disciplinaire des temples dévolus aux hussards noirs, résolus à dresser les petits Français dans le cadre d'une religion républicaine.
Cette image foucauldienne d'un processus disciplinaire, on la retrouve un peu dans ce livre qui paraît aujourd'hui chez Stock sur la dictée Jacques Munier.
Oui, Laure de Chantal et Xavier Mauduit ont parcouru des dizaines de manuels proposant des dictées à l'usage des maîtres qui racontent notre histoire depuis le 19e siècle et la loi Guizot qui organise en 1833 l'instruction primaire. Un voyage en douce France, cher pays de mon enfance, avec ses zones d'ombre et ses pans de lumière, dont Éric Orsenna dit dans sa préface qu'il est aussi une plongée dans l'intimité de la langue. L'exercice à la fois mortifiant et voluptueux construit un roman national où, par exemple, la figure incandescente de Jeanne d'Arc porte en elle tous les paradoxes de l'école républicaine. En 1841, Jules Michelet la sort des flammes pour en faire une héroïne populaire et laïque. En 1869, Monseigneur Dupanloup la récupère avec le désir de transformer ses cendres en sainte relique. Chacun des chapitres de ce livre propose en exergue une formule mnémotechnique comme, par exemple, « courir ne prend qu'un R car on manque d'air en courant » ou « l'hirondelle prend deux ailes car elle vole avec ses deux ailes ». C'est mimi, non ?
Merci Jacques Munier en tout cas pour ces moyens mnémotechniques. Et votre journal, François Angelier réagissait à votre journal des idées, très rapidement.
Je voulais tout simplement dire que Xavier Mauduit, puisque son nom était cité, sortir un très beau livre sur la fête, sur la maison, la fête impériale, donc sur Napoléon III.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet.
À 6h45, dans les titres de la presse tout à l'heure, il n'y en avait que pour le ministre de l'économie démissionnaire Emmanuel Macron, mais c'est oublié que Le Monde, paru avant la démission du ministre, titre aujourd'hui sur la division du gouvernement britannique et c'est justement le sujet des enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Voilà, avec notre invité Agnès-Alexandre Collier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation britannique à l'université de Bourgogne. Nous sommes à peu près deux mois après le référendum sur le Brexit. Alors, ce sont des partis politiques chahutés. Londres n'a pas encore officialisé sa demande de retrait à Bruxelles. Vous allez nous dire s'il faut un vote du Parlement. Je n'ai rien compris à cela parce que j'ai lu un article d'ailleurs très intéressant d'Euractiv hier sur cette question et je n'y vois pas très clair. Alors, le résultat avait été franc, près de 52% des voix lors du référendum. Alors, ce résultat a semblé prendre de court les partisans du Brexit eux-mêmes. On comprend que les deux grands partis en aient été bousculés. Le Premier ministre conservateur a perdu son pari et le Parti travailliste n'avait soutenu le maintien dans l'Union européenne qu'à mi-voix. Et l'UKIP, évidemment, a gagné mais a perdu son objet dans l'instant. Alors, vous allez me dire, d'ailleurs, il y a une actualité à tout cela aussi, c'est que bientôt il y aura deux congrès.
Oui, tout à fait, oui, oui. Alors, depuis le référendum, l'activité est quand même un petit peu, on va dire, ralentie, puisque le Parlement n'a pas encore repris ses travaux, hein. Il le fera le 5 septembre, et c'est vrai qu'à partir de là, les choses vont reprendre de manière très précipitée, puisqu'on va avoir donc l'élection du leader travailliste à la fin du mois de septembre, celle du UKIP aussi à la mi-septembre, et puis les congrès de parti, comme vous l'avez signalé, début octobre. Donc la période va être relativement chargée, ce qui va permettre effectivement de relancer la machine.
Alors, il y a une chose qui est tout à fait frappante, en tout cas pour un esprit rationnel français, c'est que on éprouve une impression de grande improvisation finalement. Alors, c'est un peuple anglais ou britannique est célébré pour son pragmatisme à juste titre. Oui. Mais alors là, on est quand même un petit peu effaré par l'amateurisme finalement des dirigeants politiques.
Tout à fait. Alors, vous parlez d'amateurisme, ça se voit tout particulièrement au sein du UKIP, on aura peut-être l'occasion d'en parler, puisque actuellement il y a toute une un débat autour de l'élection du futur leader, parce que Nigel Farage a démissionné, et il reste 5 candidats en lice, dont 2 ont laissé passer la date limite de nomination, l'un a dû démissionner, donc là on a vraiment l'exemple flagrant de l'amateurisme et le sentiment finalement que le UKIP ne va peut-être pas pouvoir durer très longtemps. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais du point de vue du gouvernement, c'est vrai que pour l'instant, on peut avoir peut-être un point de vue un peu plus positif que le vôtre et dire que le gouvernement est pour l'instant dans l'expectative. Ce qui se passe depuis 2 mois, c'est qu'il recrute là actuellement massivement du personnel qualifié pour d'experts, de négociateurs, de juristes, pour essayer d'y voir plus clair. Mais le point négatif, c'est bien sûr un énorme clivage, un débat autour de la procédure à mettre en place, voilà. Puisque pour l'instant on voit se dessiner, disons, 3 groupes d'attitudes autour de la procédure. Celle du gouvernement qui est une attitude un peu soft, on pourrait dire, qui veut prendre le temps de la négociation et surtout qui veut prendre le temps de négocier un partenariat commercial avec ses partenaires européens avant d'engager le fameux article 50 qui limite à 2 ans ensuite le retrait effectif. Il y a les hard, en quelque sorte, du Parti conservateur qui souhaite activer l'article 50D dès janvier 2017. Et puis, il y a ceux qui pensent que, de toute façon, le Brexit, proprement dit, va durer 10 ans et ne se fera peut-être pas. Hein. On a vu un article dans la presse d'un grand journaliste britannique qui émet l'hypothèse que le Brexit n'aura peut-être pas lieu. Donc on voit que effectivement pour l'instant les choses sont un peu floues, ce qui donne cette apparence, comme vous disiez, d'une sorte de d'amateurisme.
Je voyais hier Madame Theresa May, la nouvelle première ministre, demander un plan d'action, c'est son expression, en tout cas en français, un plan d'action pour la sortie. Alors on se dit que c'est bien le moment de réfléchir.
Oui, tout à fait, c'est le cas. On imagine quand même, comme je vous l'ai dit, qu'à partir du 5 septembre, les choses vont reprendre. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est déjà d'essayer de trouver un consensus au sein de la vie politique sur la procédure à mettre en place. Vous disiez, il y a toutes sortes de débats au sein des partis, au sein de la vie politique. Il y a bien sûr la question de la procédure que je viens d'évoquer, et puis il y a des questions de fond qui ne sont toujours pas réglées, celle de la légitimité à apporter au résultat du référendum, comme vous disiez très justement. Ça, c'est vraiment un débat de fond qui semble plomber un peu le gouvernement, puisque, si vous voulez, il y a encore une fois 2 attitudes sur la question. Ceux qui considèrent que la décision populaire doit être entérinée immédiatement sans le vote du Parlement, et ceux qui estiment au contraire qu'en vertu de la Constitution non écrite du Royaume-Uni et donc du principe de souveraineté parlementaire, un vote au Parlement est obligatoire. Et là, c'est amusant parce qu'on voit bien tout le paradoxe finalement de ce référendum autour du Brexit, puisque ce sont les eurosceptiques qui ont défendu le Brexit au motif que la souveraineté parlementaire de Westminster primait sur le reste, qui aujourd'hui estime que la décision du référendum peut être entérinée immédiatement sans le vote du Parlement.
Oui, mais alors si on dit maintenant que le référendum était consultatif, c'est tricher, parce que M. Cameron s'était engagé à respecter les voix des électeurs dans un sens ou dans l'autre.
Oui, tout à fait. C'est toute la difficulté. Donc, on imagine, si vous voulez, que les députés, s'il y a vote du Parlement, iront dans le sens de ce qui a été voté par le peuple. Mais voilà, c'est encore un problème qui n'est pas réglé et qui, j'espère, le sera très bientôt.
Alors, les travaillistes sont très divisés, les conservateurs sont maris, on va dire, que tu disais d'ailleurs aussi, et puis il y a ce UKIP qui a emporté l'affaire, mais qui, évidemment, encore une fois, a perdu son objet de combat.
Qui a perdu son objet, qui semble avoir aussi quand même un petit peu perdu son identité partisane, parce que là, l'élection semble vraiment être un véritable chaos. Et puis Nigel Farage, qui a l'air de continuer son chemin tout seul, on l'a vu aux côtés de Donald Trump pendant l'été. Donc il a démissionné du parti, mais n'a peut-être pas forcément quitté la vie politique. Peut-être a-t-il des ambitions nationales plus importantes que celle de présider un parti simplement eurosceptique qui n'a plus lieu d'être. On peut imaginer qu'il reviendra.
Juste d'un mot, parce qu'on arrive au terme de l'émission, oui. Agnès Alexandre Collier, je rappelle, vous êtes professeur de civilisation britannique à l'université de Bourgogne, et c'est, ça remet en cause à terme, hein, d'ici 5 ans, 10 ans, etc., la fameuse alternance pendulaire entre les conservateurs et les travaillistes, qui est un grand classique de la vie et du système politique britannique.
Oui, alors ça c'est une hypothèse qu'on émet depuis pas mal de temps, depuis les élections de 2010, hein, avec justement ce Parlement sans majorité. Moi je crois quand même à une certaine stabilité qui perdure, je crois à une certaine, on va dire, ce pragmatisme qui semble revenir de manière très régulière. Mais c'est vrai que le Parti travailliste est dans une situation extrêmement critique, et, ce qui risque de poser problème par rapport à son identité d'opposant parlementaire vis-à-vis du gouvernement conservateur. C'est plutôt l'enjeu et l'avenir du Parti travailliste qui m'inquiéterait dans l'immédiat.
Voilà, on aura le temps de revenir évidemment dans les mois suivants sur toutes ces questions à la fois compliquées et en suspens. Merci beaucoup Agnès Alexandre Collier. Et pour vous écouter, vous téléchargez donc, et merci à nos amis auditeurs d'y procéder, donc franceculture.fr et également demain, donc le titre, on parlera de la Colombie avec les promesses et les aléas de l'accord de paix avec les FARC, et notre invité sera Daniel Pecot, École des hautes études en sciences sociales.
Merci Thierry Garçon. Voilà, on vous retrouve donc demain. Il est 6h55 sur France Culture.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. Now so long, Marianne. It's time.
So long, Marianne, Leonard Cohen, sur son premier album sorti en 1967, Songs of Leonard Cohen. Adieu, Marianne, tout comme on pourrait dire adieu les valeurs de la République, adieu la laïcité, tous ces mots chers au gouvernement qui se sont succédés depuis des décennies et que les discours politiques ont fini par vider de leur sens. Dernière victime en date, donc, Marianne, au sein nu et non voilé, parce qu'elle est libre, selon le Premier ministre, qui l'a dit lundi au meeting de Colomiers, ce qui lui a valu quelques virulentes leçons d'histoire sur les réseaux sociaux, notamment celle de l'historienne Mathilde Larère sur Twitter, qui donne réponse, dit-elle, je la cite, à un Premier ministre inculte. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour, comment ça va Émilie ?
Bien, et vous-même ?
Eh bien écoutez, moi je suis heureux d'être dans ce studio en votre compagnie, en
bien
noble
entouré,
compagnie.
Bien entouré, François Angelier, Thierry Garcin. François Angelier qui tient à rester jusqu'à votre arrivée,
moi,
Guillaume Erner.
Reste,
fan absolu.
Ah bah, écoutez,
dernière seconde.
Non, remercie.
On vous retrouve dans un instant pour votre humeur du jour où il sera question de colonisation.
Radio France présente Musique et cerveau, un cycle exceptionnel de conférences au studio 105 de la Maison de la Radio à Paris, animé par le professeur Hervé Platel de l'INSERM. Au programme du samedi 10 septembre, Musique du futur, cerveau du futur. Comment le numérique modifie les pratiques musicales? Les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à soigner le cerveau? Chercheurs et experts vous présenteront les dernières avancées et les résultats de leurs travaux. Passionnés, curieux, professionnels de la santé, de l'enseignement ou de la musique, inscrivez-vous sur musique-santé.org. Avec MGEN, Mutuelle Santé et Prévoyance, la protection sociale de 4 millions de personnes.
Il est 6h57 et Guillaume Erner, votre humeur du jour, donc, où vous nous parlez du bilan de la colonisation.
Voilà, un bilan globalement positif de la colonisation, de Mars. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais on a colonisé Mars, enfin colonisé virtuellement. Alors je vous explique l'histoire, Émilie. Mars, c'est loin, vous le savez, il y a les Seychelles, puis c'est de l'aller simple. Alors on a résolu la question en enfermant 6 personnes dans un Algeco, un préfabriqué, pendant un an. Alors, l'idée, c'est qu'ils sont un peu comme vous, Émilie, un peu comme si je vous enfermais dans ce studio avec Jacques, François et Thierry, non pas sous le regard de trois personnes ensommeillées en régie, mais sous le regard de la NASA, ce qui serait quand même beaucoup plus noble. Et puis, vous auriez pour toute nourriture du jambon déshydraté et des œufs en poudre.
Le problème est là.
C'est là le problème, oui.
Ah ben, y a pas que ça aussi, parce que vous serez pas enfermé complètement, François. Vous auriez le droit de sortir pour aller à la rencontre des Martiens, à condition, bien entendu, d'enfiler une combinaison spatiale. Alors, vous avez tous l'air surpris, je l'ai été aussi quand j'ai appris donc la teneur de cette entreprise, car a priori, on se demande qui pourrait accepter de rester enfermé pendant un an dans un Algeco avec permission d'en sortir déguisé en cosmonaute. Mais en y réfléchissant, je me dis que c'est un peu ce que nous allons tous vivre cette année, c'est la rentrée jusqu'en juillet. Il va nous falloir supporter d'être enfermé avec 5 de nos semblables ou plus. Et pour recréer les conditions d'ailleurs de vie sur Mars, les emails, ai-je lu, mettaient 20 minutes à leur parvenir, à ces pseudo-cosmonautes, ce qui représente un avantage, puisqu'au moins pendant ces 20 minutes, ils avaient la paix. Alors moi, je trouve finalement que c'est une expérience passionnante, et je propose à chacun de nos auditeurs de la recréer. Recréons les conditions de vie sur Mars. Il suffirait que chacun d'entre nous accepte de sortir de son bureau coiffé d'un aquarium, avec 2 bouteilles de flotte accrochées dans le dos, reliées par un tuyau d'aspirateur. Alors, je ne suis pas sûr que ça nous apprendrait grand-chose sur la vie martienne, mais au moins, cela nous permettrait de rendre la Terre plus drôle et donc plus habitable.
Moi, je suis tout à fait d'accord pour me prêter à l'expérience, si on peut émettre sur Mars aussi. Merci beaucoup, Guillaume Herner. Les matins commencent dans quelques secondes. Le temps pour moi de remercier les chic types de ces petits matins qui m'accompagnent chaque jour. François Angelier, Toufik Hakem, Thierry Garcin, Jacques Munier, Mydia Portis-Guérin, réalisatrice de la première heure, accompagnée à la prise de son d'Élise Le, Jean-François Souvely, au droit d'auteur. Et dans un instant, il sera à 7h. Guillaume Herner, vous posez la question ce matin, Internet est-il dangereux ?
Voilà, doit-il nous faire peur ? La toile est accusée de tous les maux, elle permettrait aux terroristes de tisser leurs pièges, aux haineux de tout déverser en matière de bile et au trafic en tout genre de se dérouler à l'abri des regards. On en parlera avec Mounir Majoubi, président du Conseil national du numérique, Adrienne Charmet de la Quadrature du Net et du journaliste Jean-Marc Manac. Et puis à 7h15, dans la question du jour, nous poserons la question de savoir s'il peut exister un oxymore aussi curieux, aussi étrange que le libéral socialisme. Et nous serons en compagnie du professeur de sciences politiques Vincent Martini, qui anime également l'atelier du pouvoir. Mais en attendant, il est 7h sur France Culture.